Félix Séguin est journaliste au Journal de Montréal, vous pouvez lire aussi dans le Journal de Québec, à TVA, membre éminent de ce qu'on appelle le Bureau d'enquête de Québécois. Et Félix Séguin a eu des contacts soutenus avec une source privilégiée dans la mafia, Andrew Scopa. Le caïd était, oui, littéralement une source de Félix Séguin. Et Félix, avec son partenaire d'enquête, le journaliste Éric Thibault, raconte les dessous de cette affaire-là dans un livre, dans un documentaire ces jours-ci. Je vais donner tous les détails à la fin de l'entrevue. Félix Séguin est au bout du fil. Salut Félix.
Salut Pat.
Écoute, d'abord, bravo, je te l'ai dit en privé. C'est un coup journalistique absolument incroyable que d'avoir noué des liens avec un haut placé de la mafia. On peut penser ce qu'on veut de la mafia. On n'en pense pas beaucoup de bien généralement, mais ce gars-là a pu te raconter des choses sur la façon dont fonctionne la mafia. Et je te le dis, c'est un coup dont on va parler encore dans plusieurs décennies. Qui était Andrew Scopa?
Ben, d'abord, Andrew Scopa, c'est un Calabrais d'origine qui a immigré ici alors qu'il avait 4 ans. Et puis, il était, et lui, sa famille, très pauvre, si bien qu'il a été soutien de famille. Patrick, dès son tout jeune âge, presque sa préadolescence, il a commis son premier hold-up à 13 ans. Donc, tu vois un peu la dynamique. Il taxait ses camarades de classe pour obtenir leur lunch, pour faire manger sa famille, manger lui-même. Et puis, sa criminalité a commencé comme ça, par les hold-up. Puis un hold-up, c'est pas un petit larcin à 13 ans, oui. Juste mentionné. Et puis, il a gravi les échelons. Il est devenu un des plus gros importateurs, sinon le plus gros importateur d'héroïne au Canada. S'est rapproché énormément de Vito Rizzuto, qui voyait en lui quelqu'un qui pouvait lui apporter de lucratives affaires aussi. Et il était très proche de Vito. Il s'est lié d'amitié avec lui et il a accédé finalement au cercle très restreint des gens qui avaient le contrôle sur la criminalité organisée italienne à Montréal. Là, je te parle des années, entre autres, 2013, 2015, 2017, où la police elle-même le considérait comme étant le parrain intérimaire, alors que Vito Rizzuto, lui, était mort d'un cancer. Alors, c'est un criminel d'envergure, au fond.
Pourquoi il te parlait?
Ben, écoute, il y a deux raisons qui sont évidentes. D'abord, il y a un but oblique de Andrew Scopa, comme le but oblique de plusieurs sources journalistiques. Au fond, t'es pas sans savoir que quand quelqu'un t'appelle pour te donner un scoop, dans 70% des cas, il y a quelqu'un qui va être heurté par ce scoop-là, et normalement, quelqu'un aussi en veut à une autre personne. Ça arrive. Toi, t'es là au milieu de tout ça pour être en position catcher, si tu veux, receveur, comme au baseball, pour que tu recueilles la confidence, puis d'abord, statut, si c'est d'intérêt public ou non, puis si c'est d'intérêt public, tu y vas. Alors, Andrew Scopa, sa raison, l'une de ses raisons, c'était probablement que il pouvait installer une histoire dans l'esprit des gens que c'était les autres les méchants et c'était lui le bon. Mais évidemment, on n'a pas mordu. On n'a pas mordu dans le gâteau, c'était certainement de ses motivations.
Écoute, tu racontes, je suis en train de lire le livre, là, mais j'ai vu le documentaire, tu racontes dans le documentaire comment, quand on noue des relations avec une source, quelle qu'elle soit, ben la source, c'est un être humain. Fait qu'il y a un échange humain. Et là, lui, ce gars-là, Andrew Scopa, il aimait ça de parler. Un moment donné, tu dis que tu as l'impression que tu es en train d'être son psy. Et c'est un gars qui sait plein d'affaires et on va écouter un extrait du documentaire, là, Scopa et moi. Et vous allez voir, mesdames et messieurs, là, c'est assez particulier ce que tu racontes, Félix.
Andrew Scopa se rappelle de chaque date, de chaque fête, de chaque jour où des personnes qu'il connaît ont été tuées. Donc, moi, je l'ai rencontré quelques jours avant ma fête pour la première fois. Le premier appel que j'ai eu, le 21 octobre 2014, à ma fête, le matin, c'est Andrew Scopa qui m'appelait pour me dire « Hey, how are you? » Ah, je voulais juste te dire bonne fête. C'est tout? Oui. Après ça, à la fête de ma plus vieille, il m'appelle la journée de la fête de ma plus vieille. Ça, j'ai jamais raconté ça. Puis il dit « Je pense que c'est la fête de ta plus vieille aujourd'hui. » Là, je me suis dit, what the fuck?
Il savait pas que c'était ta fête, puis c'est la fête de ta plus vieille. Tu y avais pas dit.
Ben, écoute, ce que je me suis dit en rétrospective, c'est est-ce que je lui ai dit à un certain moment, je peux pas te parler. Aujourd'hui, c'est la fête de ma plus vieille. Puis l'année d'après, il s'en rappelait. Moi, c'est ma théorie là-dessus. Mais est-ce que tu peux t'imaginer un peu l'intrusion? Parce que moi, j'ai essayé de tracer une ligne. En fait, j'ai pas essayé. J'ai tracé une ligne avec lui. Puis quand on commence à t'appeler à la journée de la fête de tes enfants, mais cette ligne-là, tu vois qu'elle essaie de la franchir. T'sais. Puis oui, j'ai joué au psy avec lui. Puis pas, je l'ai rencontré une centaine de fois, Andrew Scopa. Puis dans, je te dirais, 60% du temps, c'était une relation de source à journaliste qui est improductive parce que, au fond, je l'ai compris pourquoi. Parce que j'estime que lui, probablement, que ça lui faisait du bien, entre guillemets, de parler à quelqu'un, d'entre guillemets, aussi normal. Parce qu'il n'y a pas d'amis. C'est quelqu'un qui n'a aucun ami, qui a peur de se faire tuer, qui est aux anxiolytiques, aux antidépresseurs, aux somnifères. Il mène une vie, franchement, il mène une vie de merde. Et là, il y a quelqu'un qui pense normalement avec un système de valeurs normal devant lui. Donc, il m'a partagé plus. Il parlait de politique, il parlait du temps qu'il fait, il parlait de ses problèmes conjugaux. Donc, ça t'amène dans une relation que tu dois garder vivante. Puis c'est pour ça que je l'ai fait, pour essayer de tenter le grand coup, si tu veux, qui est justement de le confesser.
C'est ça, le grand coup va venir plus tard, des années plus tard. Tu vas le rencontrer avec ton collègue Éric Thibault dans une chambre d'hôtel à Barcelone, en Espagne, et tu vas enregistrer ses confessions. On va venir à ça, mais je veux qu'on écoute un deuxième extrait du documentaire qui est disponible sur Illico. C'est un extrait où tu racontes que quand on échange avec un gars comme ça, on met le pied dans un monde qui n'est pas très réjouissant.
J'ai deux choses dans ma vie, Andrew Scopa. Des pyjamas et une bouteille de vin. La bouteille de vin, je l'ai encore. C'est la bouteille que Vito Rizzuto buvait. Ça a commencé à me jouer dans la tête, là, parce que c'est un monde qui me fascine, mais c'est pas le mien. Puis je veux pas que ça soit le mien.
Tu veux pas que ce soit le tien, mais t'as un pied dans ce monde-là, puis même si c'est pas ton monde, Félix, à ce moment-là, t'évolues dans ce monde-là. Qu'est-ce qui était épeurant?
Ben, ce qui était épeurant, d'abord, c'est le jugement que les gens pouvaient... Parce qu'au fond, moi, il y a eu quelque chose qui m'a fait peur. Ce qui était épeurant, c'est d'abord si quelqu'un arrive pour le tuer parce que sa tête a été mise à prix, les policiers l'avaient averti de menaces qui planaient sur sa vie, puis lui était conscient de sa propre finalité. Et là, à un moment donné, moi, j'ai dû baisser la garde parce que, tu sais, pour la police, là, louer des chambres d'hôtel puis avoir un dispositif de sécurité pour une source de cette ampleur-là, c'est quasi infini comme budget. Pas pour nous autres. Alors, on a commencé à faire des tours d'auto, puis se rencontrer dans certains endroits, dans l'ouest de l'île, dans Griffintown, où si quelqu'un arrivait pour passer Andrew Scopa cette journée-là, c'est sûr que il n'aurait pas fait le tri en disant « Ouais, lui, pas lui, lui, pas lui. » Peut-être qu'il y avait des... Non, pas peut-être. La police m'a averti qu'on courait vers un danger. On prenait des risques qui étaient totalement irréfléchis selon eux parce que, devine quoi, on a été capté en filature. Parce qu'un gars comme ça, c'est normalement sous filature. Alors, à deux reprises, une fois moi, Andrew Scopa, une autre fois moi, Andrew Scopa et Éric Thibault, on est, comme disent la police, tombé sur la filature. De la Sûreté du Québec dans des projets d'enquête qui menaient sur Andrew Scopa. Puis là, on nous a rencontrés, puis on nous a dit, les gars, qu'est-ce que vous faites? Puis pour eux autres, c'était tellement insensé qu'il devait y avoir un été, ça tombait tellement pas sous le sens qu'on prenne ces risques-là, que l'intérêt ne pouvait être que pécunier, voire même criminel. Alors que moi, c'est la source d'une vie, au fond, de journaliste. C'est pour ça qu'on a calculé ce risque-là. Alors, c'est dans ça que tu as le pied. Fait que c'est dans un paquet de tractations puis de gens qui peuvent se faire des idées aussi sur ta propre probité. D'ailleurs, on m'a essayé, comme on dit, on a essayé de me passer une information pour voir si j'allais la répéter à Andrew Scopa. C'est jamais arrivé, bien sûr. Mais tu comprends que là, on est à une échelle qu'on grimpe dans une échelle qu'on grimpe pas normalement dans la vie de tous les jours, puis les marches sont hautes des fois.
Puis le risque était pas théorique, là, parce que Scopa a tué du monde. Il y a du monde qui voulait tuer Scopa. Il a fini par être tué. Et son frère a été tué. Et le meurtre de son frère, je pense que ça a été le déclencheur des longues séances où tu as pu, avec Éric Thibault, enregistrer Scopa?
Bien, c'est là où, tu sais, le contrôle journalistique, si tu veux, d'une source, c'est beaucoup de psychologie, tu sais, comme moi. Et moi, j'avais mis cette relation-là, si tu veux, un peu en veilleuse. Puis quand le frère d'Andrew a été tué, j'ai repris contact avec lui en disant « Est-ce que tu veux qu'on se parle? » Et c'est là où je lui ai proposé d'engager les préparatifs finaux pour mettre le plan Oméga exécution, c'est-à-dire partir, s'en aller à Barcelone, parce qu'on peut pas le faire au Québec pour des questions de sécurité, puis l'enregistrer, puis qu'il nous parle de tout ce qu'il savait. Voilà.
Et dans tout ce qu'il savait et qu'il t'a dit à propos du fonctionnement de la mafia à Montréal, qu'est-ce que tu as appris que tu n'aurais jamais soupçonné?
J'ai appris que, au fond, là, ce que nous renvoie l'image, puis tu vas me dire, c'est un peu naïf de penser ça, mais l'image qu'on nous renvoie par le truchement des caméras, tu sais, d'Hollywood, puis des films de Scorsese, puis etc., puis de Coppola, c'est à quelque part, là, un grand mensonge. Parce que l'honneur, les hommes d'honneur, à mon sens, maintenant, ça n'existe pas. Et dans la mafia montréalaise, ça n'existe pas depuis longtemps. Écoute, tu sais, Andrew Scopa nous a dit qu'il y a un clan de la mafia montréalaise qui avait engagé son propre frère pour le tuer, lui. C'est quoi l'honneur?
Le frère de Scopa voulait tuer Andrew Scopa.
Oui. Alors, tu sais, ça te met dans une situation où tu questionnes l'honneur pas mal. Puis, j'ai bien aimé, moi, entrer dans sa tête aussi, à ce gars-là, parce qu'il y a beaucoup de mafias en un, hein, dans ce qu'il dit. Moi, je me rappelle d'une citation où il dit « Si je te dis que je suis riche, puis je conduis un Volkswagen, ça te dit quoi sur moi? » Mais il dit « Si je te dis pas que je suis riche, puis je conduis une Ferrari, ça te dit quelque chose sur moi? » Il dit, it's part of a certain allure. Donc, c'est une posture que ces gens-là ont, qui, de par leur seule influence, font en sorte qu'ils ramassent des gens autour d'eux. Puis, tu sais, il y a tout cet aspect-là, moi, que j'adorais aussi.
As-tu l'impression qu'il aimait sa vie?
Non, j'ai l'impression qu'il la détestait. J'ai l'impression qu'il était à moitié mort déjà, au fond. J'ai l'impression que cet homme-là vivait comme disent d'autres sur du temps emprunté, puis que ce temps emprunté-là faisait en sorte qu'il était plus trop fonctionnel, tu sais, en société. Je te répète, là, c'est un gars qui avait aucun ami. C'est un gars qui est soupçonné d'avoir tué 15 personnes. Fait que, tu sais, quand t'enlèves la vie de 15 personnes, d'abord, tu sais, c'est pas notre système, c'est pas notre game, c'est pas notre monde. Mais comment tu peux fonctionner après, puis mener une existence normale? Fait que comme je te dis, il était comme déjà à moitié mort dans ma tête.
Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Parce que deux mois après la séance de confession là, que tu as menée avec Éric Thibault à Barcelone, ben Scopa est tombé sous les balles.
Oui. Il se doutait, moi, je pense, qu'il allait mourir parce qu'il y avait une forme de résignation dans son attitude, sa posture, son non-verbal également, quand il était en banlieue de Barcelone avec nous. Fait qu'il, on dirait qu'il savait, je me rappelle de quelque chose qu'on n'a pas raconté mais dans le film, mais puis ni dans le livre, il y a un matin où moi je devais travailler de Barcelone pour des projets à Montréal, puis je me sentais un peu malade, puis là, ben j'ai dit à Eric, va avec Andrew, parce qu'Andrew va faire un tour d'autobus touristique à Barcelone. Et écoute, tu sais, je repense à cette situation-là complètement surréelle. Mon bon Éric, mon fidèle partenaire avec qui j'ai fait tout ça, était pogné dans un autobus, dans un genre de double-decker, là, un autobus à deux étages touristique là, à Barcelone, à faire le tour de la Sagrada Familia avec un homme qui est un meurtrier, qui est décrit comme un sadique meurtrier. Je sais pas, tu sais, mets-toi dans cette situation-là, deux secondes, puis ça relève de
écoute,
pas réel.
Ça va être un beau passage dans les mémoires du journaliste Éric Thibault.
Oui, non, puis je me plais à lui rappeler. souvent.
Félix, il y a juste un problème dans tout ce coup fumant, puis veux-tu savoir c'est quoi?
Oui, donc.
C'est qu'il te reste 25 ans de carrière, ça va être dur à battre.
Ben, écoute, c'est gentil, c'est gentil, puis écoute, je remercie mes collègues aussi qui m'ont appelé, parce qu'au fond, c'est ceux qui couvrent le même milieu que moi. J'ai reçu, tu sais, aujourd'hui, tous tes collègues de la presse, Vincent Larouche, Daniel Renault, tous mes collègues à TVA, dans les médias concurrents aussi, ont compris que c'est, ben, la même chose que toi, au fond, que c'est un bon coup, puis devant ce bon coup-là, pour les gens qui couvrent ça, ben on se félicite, parce qu'on sait ce que ça implique. T'es bien gentil. Merci.
Lâche pas, merci de nous avoir parlé. Salut, Félix.
Ciao.